L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 16h, ce mardi 26 novembre 1974. Paris se noie dans l'agitation d'un jour d'automne en apparence ordinaire. Pourtant, au sein des murs de l'Assemblée nationale se prépare un moment capital. Un tournant décisif pour les Françaises et les Français. Les rangs de l'hémicycle bruissent d'excitation. En cet instant, tous les regards sont fixés sur celle qui s'avance vers la tribune. 16h, l'heure H de mon histoire. Elle, c'est Simone Veil. Elle s'apprête à prononcer un discours qu'elle a méticuleusement préparé, qu'elle a lu et revu une bonne partie de la nuit. Face à elle, les membres de l'Assemblée nationale s'agitent. Ah, on ne peut pas dire qu'il lui soit favorable, loin de là. En ce 26 novembre 1974, Madame Veil doit convaincre 481 députés hommes et 9 députés femmes d'adopter son projet de loi qui fait tant polémique. La France est sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil occupe le poste de ministre de la Santé. Son projet, son combat, dont la défense devant l'Assemblée est le paroxysme, n'est autre que la loi dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse. C'est clair, la tâche s'annonce ardue. Et Simone n'est pas le moins du monde effrayée. Elle mènera cette bataille extraordinaire jusqu'au bout, coûte que coûte, comme le formulera l'un de ses fils. « La peur n'est pas dans son registre de sentiments », dira-t-il. Alors Simone Veil prend une dernière respiration et elle se lance. Sa voix calme, quoique un peu tendue, s'élève dans l'hémicycle. « Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Les responsabilités dont parle Simone Veil, il incombe à l'Assemblée nationale et plus largement à la France de les assumer. Enfin, car le débat sur l'avortement fait rage en France. En s'emparant de ce dossier, la ministre doit faire preuve de fermeté et de réalisme. Il est difficile de faire semblant de rien, de fermer les yeux sur un acte que l'on sait pratiqué par de nombreuses femmes. A fortiori, depuis la publication du manifeste des 343. Alors, revenons 3 ans plus tôt. Nous sommes le 5 avril 1971. Les Françaises et les Français découvrent une pétition. Parue dans le journal Le Nouvel Observateur, elle est intitulée Le manifeste des 343. Selon le titre qui s'affiche en une du 334e numéro du magazine, il s'agit de la liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste « Je me suis fait avorter ». Et parmi elles, on trouve Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve, Françoise Sagan, Gisèle Halimi, Marguerite Duras, Jeanne Moreau ou encore Agnès Varda, entre autres. Rédigé par l'écrivaine et philosophe Simone de Beauvoir, le texte débute ainsi. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Ce manifeste fait figure d'exemple de désobéissance civile. En effet, ces femmes, artistes, journalistes, intellectuels ou simples anonymes, reconnaissent avoir enfreint la loi en ayant eu recours à un avortement illégal. En signant la pétition, elles s'exposent à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Mais qu'importe, il fallait frapper fort pour lever le tabou sur une véritable problématique de société et de santé. À ce propos, l'avocate Gisèle Halimi, qui fait partie des signataires, on l'a dit, déclare à la télévision « La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres. Seulement, elles ne le disent pas. » Eh bien, elles, les 343 signataires, ont eu le courage de le dire, et publiquement, de le clamer haut et fort et d'inscrire leur nom sur la liste. Notez qu'aucune des signataires ne sera finalement poursuivie. Peut-être qu'un léger vent de changement et de progressisme souffle déjà sur la France. Ce texte, vous en avez probablement entendu parler. Il est aussi connu sous l'appellation de « Manifeste des 343 salopes » en raison de la une de Charlie Hebdo, publiée la semaine suivante. Une caricature signée Cabu et intitulée « Qui a engrossé les 343 salopes » du Manifeste pour l'avortement ? Ce manifeste provoque un tollé dans la société française. Il fait l'effet d'une bombe. Premièrement, parce que dans les semaines qui suivent sa parution, plusieurs milliers de signatures viennent s'ajouter. Et puis, le 20 novembre 1971, a lieu la marche internationale des femmes pour l'abolition des lois contre l'avortement. Des milliers de femmes défilent dans les rues de Paris. Le moment est historique. C'est la première grande manifestation féministe depuis 1936. La popularité des idées initialement défendues par des mouvements minoritaires n'est plus à démontrer. Les Françaises se mobilisent en masse pour la liberté de disposer de leur propre corps. Et puis, un an plus tard, un procès fortement médiatisé épaissit le trait d'un tableau déjà bien sombre. Octobre 1972. Au cours du fameux procès de Bobigny, des femmes sont jugées pour avoir aidé une mineure de 17 ans, une certaine Marie-Claire, à avorter. Un acte pratiqué illégalement, donc. Oui, mais seulement voilà. Marie-Claire a été dénoncée à la police par son ex-petit ami qui n'est autre que son violeur. La mobilisation autour du procès est forte. Et ce sera finalement l'acquittement pour la jeune fille. En revanche, sa mère devra payer 500 francs d'amende pour complicité d'avortement. Quant à la personne ayant pratiqué l'interruption de grossesse, la « faiseuse d'ange », selon l'expression consacrée, elle sera condamnée à un an de prison avec sursis. Cette affaire retentissante trouble la France tout entière. Il faut dire que l'avocate, Gisèle Halimi, réussit à en faire un procès politique à l'échelle nationale et à alimenter un débat de société. Et justement, qu'en dit la société de l'époque ? Un sondage IFOP François, réalisé en 1972, assure que 60% des Français souhaitent autoriser l'avortement aux cas sociaux et en cas de viol et de risque d'enfants anormaux. Alors, 3 ans plus tard, on peut dire que le terrain est propice à faire avancer les droits des femmes, enfin. Et qui d'autre qu'une femme pour défendre cette dépénalisation de l'IVG ? Alors attention, rien n'est gagné d'avance. Ah, il va falloir s'y prendre habilement, sachant que les rangs de l'hémicycle sont composés de seulement 9 femmes contre 481 hommes. Ou, dit autrement, 1,6% de femmes pour 98,4% d'hommes. Mais Simone Veil, ce n'est pas n'importe qui. Dotée d'une licence en droit et d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, elle réussit le concours de la magistrature en 1956. Un concours qui n'est accessible aux femmes que seulement depuis 10 ans. Par la suite, cette femme brillante prend en charge les affaires judiciaires en tant que haute fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. Ensuite, elle passe à la direction des affaires civiles. Droit des malades mentaux, questions d'adoption, égalité homme-femme. Madame Veil travaille sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Rejet de l'injustice et volonté d'agir marquent son engagement de leur sceau. En 1970, elle devient secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Nommée par le président français Georges Pompidou, elle est la première femme à occuper ce poste. Déjà, elle laisse une trace dans l'histoire. À la mort de Pompidou, les Françaises et les Français élisent Valérie Giscard d'Estaing. Quelques jours après cette élection présidentielle, le destin de Simone bascule. Nous sommes le 27 mai 1974. Ce soir-là, Simone et son mari Antoine dînent chez des amis. Au menu, vin, bon petit plat et débat de société. Dans l'appartement parisien, on passe un moment plaisant, auréolé de chaleur amicale. Alors que les discussions vont bon train, la sonnerie du téléphone vient perturber le fil de la soirée. Contre toute attente, c'est Madame Veil qui est attendue au combiné. En revenant s'asseoir à table, elle reste évasive quant à la teneur de ce mystérieux appel. Il faudra attendre le retour en voiture pour qu'Antoine, son mari, apprenne que la personne au bout du fil n'était autre que Jacques Chirac, le Premier ministre, et qu'il lui exprimait sa volonté de la faire entrer au gouvernement. Les dés sont jetés puisque Simone a déjà dit oui. C'est ainsi qu'à 47 ans, elle devient ministre de la Santé et par la même occasion, la seule femme ministre du gouvernement. En effet, ses rares collègues féminines occupent des postes de secrétaire d'État. Annie Le Sueur à l'éducation, Hélène d'Orlac à la justice, Françoise Giroud à la condition féminine. Cette nomination fait d'elle la deuxième femme ministre de plein exercice dans l'histoire de la République française. À cette époque, on ne peut pas dire que Simone soit réellement connue du peuple français, mais elle ne va pas tarder à être projetée sur le devant de la scène politique et médiatique pour mener un combat sans concession face à la vindicte de la France conservatrice. En acceptant le ministère de la Santé, Simone Veil n'imaginait pas que le dossier de l'avortement lui reviendrait. Elle pensait que celui-ci relevait de la justice. Et puis, Chirac était hostile à la libéralisation de l'interruption volontaire de grossesse. Chirac, oui, mais pas Giscard d'Estaing. Alors, l'épineux sujet ne tarde pas à surgir, mis sur la table par le président de la République lors d'un conseil des ministres. Impossible d'attendre davantage, ni de continuer à détourner les yeux devant le problème désormais connu des avortements clandestins. Giscard d'Estaing souhaite que le Parlement réforme dans le sens libéral et non répressif. L'urgence dicte le calendrier ministériel. Et puis, c'était l'une des promesses de sa campagne présidentielle. Précisons qu'une proposition a déjà été étudiée l'année précédente, portée par Michel Poniatowski, alors ministre de la Santé du gouvernement Mesmer. Malheureusement, le texte fut rejeté par 225 voix contre 212. 13 voix. Et la loi sur l'IVG aurait été adoptée. Comme quoi, ça ne tenait plus qu'à un fil. Désormais, l'avenir du projet repose entre les mains de Simone Veil. Mais quels en sont ses termes et conditions? La loi Veil vise à autoriser l'avortement avant la 10e semaine de grossesse, sur simple demande à un médecin. Notez que le texte ne prévoit pas que l'acte soit remboursé par la Sécurité sociale. Non, pour cela, il faudra attendre 10 ans supplémentaires. À l'époque, Simone Veil a le soutien des mouvements féministes. Elle peut aussi compter sur l'appui du ministre de l'Intérieur, un certain Michel Poniatowski. Quant à ses adversaires, oh, ils sont tenaces, nombreux et surtout, ils sont prêts à tout pour faire échouer cette nouvelle loi. une partie non négligeable de la société française se mobilise. Inadmissible, immoral, contraire aux valeurs religieuses, criminel. Les mots pour fustiger l'interruption volontaire de grossesse ne manquent pas. L'Église a encore une influence certaine dans les années 1970 et les conservateurs sont vent debout contre la nouvelle ministre de la Santé. Simone Veil va devoir essuyer des coups bas et affronter de virulentes attaques. Mais souvenez-vous des paroles de son fils. La peur n'est pas dans son registre de sentiments.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Simone Veil. Nous sommes le 26 novembre 1974 et c'est en tant que ministre de la Santé qu'elle doit défendre son projet de loi. Face à elle, 9 femmes députées contre 481 hommes députés. Le sujet du jour, la très polémique loi sur la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Un dossier qui agite la société française depuis plusieurs années. Et l'heure de vérité approche. Le président de l'Assemblée nationale, Edgar Faure, appelle à la tribune Madame Simone Veil. Chignon bas, long collier de perles, tailleur bleu. La ministre de la Santé s'avance. Ses yeux d'un vert clair transparent affichent une détermination franche. Sa présence est teintée d'une majesté naturelle. Et ce regard, si profond, reste gravé dans la mémoire de celles et ceux qui l'ont croisé. Elle s'apprête à prononcer un discours mémorable. Des mots qui marqueront l'histoire du féminisme français. À l'extérieur de l'hémicycle, les militants anti-avortement font le siège. Depuis plusieurs jours, les manifestations s'enchaînent. L'opposition au projet de loi Veil est virulente. Il règne à Paris, en ce jour de novembre 1974, un climat de tension et de haine indicible, à l'image de ce qui va se tramer à l'intérieur de l'Assemblée nationale dans les prochaines 72 heures. Certains et certaines des plus fervents manifestants s'en prennent même à Simone Veil. On s'en donne à cœur joie. De la remise en cause de sa nomination aux insultes plus violentes, certaines à caractère antisémite. Quelle honte! Même au sein des rangs a priori favorables à la loi Veil, émergent des questionnements. C'est vrai ça. Même si aujourd'hui on ne doute plus que Simone Veil était la personne adéquate pour mener à bien ce combat, qu'est-ce qui poussa les membres du gouvernement à prendre une telle décision en 1974? Premièrement, et je vous l'ai dit, Simone Veil était peut-être une inconnue aux yeux d'une grande partie du public, mais son parcours était déjà impressionnant. Et ses qualités assurées, au vu des postes à responsabilité qu'elle occupait et des succès professionnels qu'elle y rencontrait. Il n'était pas rare d'entendre dire que le dossier aurait dû être confié à Françoise Giroud, qui, rappelons-le, était alors secrétaire d'État à la condition féminine. Eh bien, là-dessus, Simone elle-même avait un avis bien tranché. Selon elle, cette loi concernait l'ensemble de la société française et pas seulement les femmes. La stratégie de lui confier à elle, plutôt que Françoise Giroud, a peut-être mené paradoxalement à la victoire. Car Françoise Giroud aurait été trop clivante pour les parlementaires de droite. L'axe de défense de cette dernière tournait autour du droit des femmes à disposer de leur propre corps. Or, pour certains, c'est encore inconcevable aujourd'hui. Alors, imaginez en 1974. Une telle revendication était parfaitement inaudible pour une grande partie des députés, mais aussi des citoyens et citoyennes. Alors, le choix de Simone Veil n'était pas si anodin. Sans oublier qu'elle disposait d'une intelligence politique rare et que le rejet de l'injustice l'animait d'une volonté à nul autre pareille. C'est bien d'injustice dont il est question pour Simone en 1974. Plus de 300 000 femmes avortent chaque année. C'est un fait. Mais toutes ne bénéficient pas des mêmes conditions. À l'époque, les plus privilégiés ont les moyens de se payer les services de cliniques privées. En revanche, pour les plus défavorisés. Les solutions sont beaucoup plus artisanales et bien plus risquées. Certaines mettent en péril leur santé, risquent l'emprisonnement, voire leur vie, car certaines n'y survivent pas. Beaucoup font appel à celles que l'on surnomme les faiseuses d'anges. D'autres voyagent en dehors du territoire français, grâce notamment à l'aide, la complicité, selon la loi de l'époque, d'associations féminines. Ces dernières organisaient le fret de bus à destination de la Suisse, des Pays-Bas ou encore de l'Angleterre. Il était de notoriété publique qu'on pouvait trouver les horaires affichés dans certaines pharmacies. Dans son livre « L'événement », l'écrivaine Annie Ernaux évoque son expérience de l'avortement en employant les mots suivants. Une épreuve ordinaire. Il suffisait de suivre la voie dans laquelle une longue cohorte de femmes m'avait précédé. Depuis l'adolescence, j'avais accumulé des récits, lus dans des romans, apportés par la rumeur du quartier, dans les conversations à voix basse. L'avortement est donc une réalité pour les femmes, celle que nous côtoyons chaque jour, et ce, depuis toujours. Simone l'a compris. C'est un drame ordinaire qui se joue, dans la clandestinité, mais aussi dans l'hypocrisie la plus totale. Il s'agit donc de mettre fin à un désordre public et de ne pas se laisser entraîner dans un débat moral. Sa stratégie d'attaque se résume en un mot, pragmatisme. L'Assemblée, la France, doit prendre ses responsabilités, et elle va les prendre, car il n'est pas d'autre issue envisageable pour Simone Veil. Dans un article Mage, publié début juillet 2017, la journaliste Annick Cojan dira d'elle « Elle portait haut une exigence de morale et d'éthique héritée de ses parents et exécrait toute idée de renoncement, de capitulation et de démagogie. » Alors, ce moment, celui de défendre son projet et son idéal de justice sociale est arrivé. Il est temps d'ouvrir les yeux des parlementaires sur la souffrance que perpétue en sourdine leur absence de courage politique. Ça y est, Simone Veil monte au perchoir. Face à elle, dans les rangs de l'Assemblée, une majorité d'hommes, on l'a dit. L'ambiance est houleuse. Les tribunes du public, à l'inverse, sont remplies de femmes. Un peu de soutien féminin, ça ne peut pas faire de mal. La locution tant attendue est retransmise en direct. Suite à une grève de l'Office de radiodiffusion télévision française, plus connu sous l'abréviation ORTF, la grille habituelle de programme a été annulée. En conséquence, les débats de l'Assemblée nationale sont diffusés en direct par les grévistes. Madame la ministre de la Santé prend une dernière inspiration. Elle se lance. Sa voix calme, quoiqu'un peu tendue, s'élève dans l'hémicycle. Ses mains posées sur le pupitre en bois maintiennent en place les feuillets d'un discours qui restera dans l'histoire. Des paroles savamment réfléchies. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. Il faut être conscient de la réalité des faits. Ou encore, nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes dans ce pays, bafouent nos lois, et humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. Il faudra 40 minutes à Madame Veil pour exposer les tenants et les aboutissants relatifs à son projet de loi et tisser les fils d'une argumentation implacablement bien préparée. À la fin, la gauche la couvre d'applaudissements et de bravos. Aucune réaction ne vient agiter les rangs de la droite. Le ton est donné. L'épreuve la plus dure n'est finalement pas celle de s'exprimer seule devant l'Assemblée nationale. Le plus éprouvant est à venir. Le temps du débat sourd, et avec lui se libère la vindicte des députés farouchement hostiles. En tout, 74 orateurs interviendront à la tribune. Et c'est une femme qui, la première, s'avance pour prendre la parole. Difficile de passer après une allocution d'une telle puissance politique et rhétorique. Elle s'appelle Hélène Missoff. Elle compte parmi les rangs de la droite et plus précisément du RPR, le Rassemblement pour la République. Toutefois, elle est favorable au projet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle attaque fort en déclarant ceci. Se fermer les yeux, faire comme si le problème n'existait pas, est à la fois lâche, bête et stupide. Clameur dans l'Assemblée. Ensuite, ils vont être nombreux à se succéder au perchoir pour tenter de démontrer que le vote de cette loi porte atteinte aux fondements de la société française, en faisant notamment étalage d'arguments savamment empruntés au champ de la morale et de la religion. Pourtant, et comme l'a évoqué Simone Veil, ce projet a été longuement réfléchi par l'ensemble du gouvernement. Alors, quel argument les députés vont-ils dégainer pour faire échouer la loi Veil ? Jean Foyer, député de la majorité de droite, ouvre le bal en déclarant ceci. Le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits hommes et que certains de mes collègues ont eu l'occasion de visiter à l'étranger. Alors que la droite et le centre applaudissent, les protestations fusent à gauche. Le président de l'Assemblée lance un rappel à l'ordre et au respect. Assise sur le banc du gouvernement, Simone reste impassible. Elle prend des notes. Mais comment ne pas réagir aux attaques lancées par les plus farouches de ses ennemis ? Ainsi, le député de droite, Alexandre Bollo, viendra prononcer cette phrase odieuse. Vous instaurez un nouveau droit, un droit à l'euthanasie légale. Comment osez-vous parler d'euthanasie à Madame Veil ? Lui répond Pierre Bourson, faisant implicitement allusion au passé de Simone. Et en effet, comment ose-t-il ? Simone Veil, née Simone Jacob, vivait des jours paisibles à Nice, aux côtés de sa famille, avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate et que la folie nazie ne les atteigne. Arrêtée par la Gestapo en mars 1944, Simone et sa famille sont déportées. Son père, son frère, sont envoyés en Lituanie, d'où ils ne reviendront jamais. Simone, sa mère, et l'une de ses sœurs sont, elles, envoyées au camp de Drancy, de manière temporaire. Elles seront ensuite transférées à Auschwitz-Birkenau, puis à Bergen-Bergen. Sa mère ne réchappera pas de la déportation, emportée par le typhus à seulement un mois de la libération. Simone et sa sœur feront partie des survivants et survivantes des camps de l'horreur. La peau de Simone et sa mémoire resteront marquées à jamais par l'horreur de la déportation. Le matricule 78651 qu'on lui tatoua sur le bras à son arrivée à Auschwitz, elle choisira de le faire inscrire sur son épée d'académicienne. La déportation restera la chose la plus fondamentale de sa vie, qui a influencé tout le reste. Alors, comment imaginer qu'on se permette de lui parler d'euthanasie, si ce n'est par bassesse ou par volonté de l'emporter à tout prix face à une adversaire plus forte que soi.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Simone Veil. Le 26 novembre 1974, la ministre française de la Santé présente son projet de dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse devant l'Assemblée nationale. Un discours puissant, suivi d'une période de débat houleux. Face à elle, 9 femmes députées, 481 hommes députés, dont certains n'hésitent pas à lui lancer les pires horreurs. C'est au soir du deuxième jour des débats parlementaires que l'attaque la plus blessante sera portée sur la personne de Simone Veil. Nous sommes le 27 novembre 1974. Le député centre-démocrate Jean-Marie Daillet monte à la tribune et prononce l'imprononçable. On est allé, quelle audace incroyable ! jusqu'à déclarer tout bonnement qu'un embryon était un agresseur. Eh bien, ces agresseurs, vous accepterez, madame, de les voir comme cela se passe ailleurs, jeter au four crématoire ou remplir des poubelles. Dans une interview accordée ultérieurement à ce sujet, elle qualifiera ces moments de « difficiles » sur le plan personnel. Quant à l'intervention de Jean-Marie Daillé, Simone confiera « Je crois qu'il ne connaissait pas mon histoire. » Mais le seul fait d'oser faire référence à l'extermination des Juifs à propos de l'IVG était scandaleux. Difficile d'imaginer que tous ceux qui laissent libre cours à leur haine ce jour-là n'étaient pas au fait de la déportation de la ministre. Ainsi de Jacques Médecin, qui parle de « barbarie organisée et couverte par la loi » comme elle le fut par le nazisme en Allemagne. Simone Veil subit de plein fouet la violence de ses adversaires. D'autant que la malveillance s'étend bien au-delà des murs de l'hémicycle et ne lui laisse que peu de répit. Devant l'Assemblée nationale, la ministre se heurte à des dizaines de manifestants. La foule scande « Veil, démission! Veil, démission !» Dans les couloirs de son immeuble, sur le palier de son appartement, on est venu taguer des appels à la démission et la formule « Chirac plus Veil égale criminel ». Mais ce n'est pas tout. Des croix nazies ont été dessinées sur les murs. Simone est traquée jusque chez elle et découvre l'étendue des bassesses dont sont capables les militants anti-IVG. On poussera même l'infamie jusqu'à envoyer un faux petit cercueil d'enfant à son bureau. Et je ne vous parle même pas des atroces lettres d'insultes anonymes. Comment ne pas baisser les bras face à un tel flot de haine ? Heureusement, certains députés affichent leur sollicitude, à l'instar de Jean-Pierre Cotte, qui lui adressera ces mots. « Madame le ministre, votre courage et votre détermination font l'admiration de vos amis comme de vos adversaires. Tenez bon. » Sans oublier le support de Jacques Chirac, à ses côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Une photo devenue célèbre montre Simone Veil, à 3h du matin, se frottant les yeux, la nuque courbée. N'allez pas imaginer qu'à cet instant, Madame Veil dissimule ses larmes. Fatiguée, elle l'était. Stoïque, également. Mais désespérée, ça non. Elle ne s'est pas laissée décourager par l'ardeur de la tâche qu'elle avait accepté d'entreprendre. Pour elle, c'était un combat sans concession. Pour une majorité des députés siégeant dans l'hémicycle à l'époque, il s'agit d'une prise de décision difficile. Cette responsabilité est encombrée d'un certain malaise face à un sujet aussi délicat. Alors, toutes les stratégies sont bonnes pour tenter de déstabiliser les cœurs et de faire pencher la balance en sa faveur. Ainsi, on vit Michel Debré, député de la majorité et ancien Premier ministre, monter à la tribune. « Il faut que l'affaire qui nous préoccupe soit bien grave pour que je me lève pour vous contredire et souhaiter que votre texte ne soit pas voté. » Et d'ajouter « Vous affaiblissez la France au travers d'une compétition internationale. Par votre faute, vous présagez une dégradation profonde dont la France a tant souffert. Que dis-je ? Dont la France a failli périr. » Dans le clan de ceux qui s'opposent au projet pour des raisons éthiques, citons l'intervention du député de droite, Emmanuel Hamel. Nous sommes le troisième jour des débats, soit le 28 novembre. Il se dirige vers la tribune, accompagné d'un objet peu habituel pour un député en pleine session. Un appareil davantage associé aux journalistes qu'aux parlementaires. Il s'agit d'un magnétophone. Oui, vous avez bien entendu, d'un magnétophone. En 1974, pas de YouTube, encore moins de smartphone. Après avoir approché l'appareil des micros disposés sur le pupitre, voilà que M. Hamel déclare « Écoutez donc les palpitations du cœur d'un petit être conçu le 4 octobre 1973 et enregistré 49 jours après, avant de déclencher l'enregistrement en appuyant sur la touche « Play » du magnétophone. » Oui, mais en a-t-il seulement le droit ? A priori, pas vraiment. Puisque le président de séance s'empresse de lui rappeler le règlement. « Monsieur Hamel, vous n'avez pas le droit à cette tribune de faire entendre une autre voix que la vôtre. » Au moins, c'est clair. Mais il est trop tard. Les battements de cœur de fœtus ont empli l'espace le temps d'un instant. Le coup monté a eu l'effet escompté. Mais cela suffira-t-il ? Au terme de 3 jours et 2 nuits d'échanges houleux, vient le moment de se prononcer. Le vote a lieu dans la nuit du 29 novembre 1974, dans une atmosphère électrique. Sans grande surprise, l'ensemble de la gauche vote pour. Environ 40% des centristes se joignent au pour. Mais à droite, tout ne se passe pas comme prévu. Alors que le président Giscard d'Estaing a prié les ministres de faire voter le texte par leurs suppléants, soit ceux qui les remplacent à l'Assemblée, ces derniers ne s'y plient pas tous. Seulement un tiers des élus de la majorité présidentielle respectent la consigne de vote. Alors, passera ou passera pas ? Le décompte final fait état de 189 voix contre et de 284 pour. Soulagement. Victoire pour Simone Veil. L'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture la loi dépénalisant l'avortement. La lutte n'est pas terminée pour autant. Simone doit porter son projet de loi, son combat jusqu'au bout et notamment jusque devant le Sénat. Encore une fois, il lui faut argumenter en faveur de l'IVG. De nouveaux débats s'en suivent et des nouvelles voix hostiles s'élèvent, à l'instar de celle de Jacques Henriet. Il dira ceci. La femme est libre de disposer de son corps, mais pas de l'embryon qu'elle porte, maillon de la grande chaîne de l'évolution. Mais la révolution est en marche. Du moins, le progressisme et le pragmatisme d'une femme et d'une société qui veulent mettre fin à l'injustice et à l'hypocrisie. Le 20 décembre, la loi Veil est adoptée par le Sénat. Enfin, la loi accède à son ultime étape le 17 janvier 1975, à savoir sa promulgation. En d'autres termes, la loi Veil est désormais applicable et prévoit que la femme enceinte, que son état place dans une situation de détresse, peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la 10e semaine. La loi est votée pour 5 ans. Elle sera définitivement adoptée en 1979. Et en 2001, le délai pour pratiquer un avortement sera porté à 12 semaines. Simone Veil a mené une bataille extraordinaire. Elle n'a pas flanché, gardant en ligne de mire la souffrance des femmes et la fin d'une injustice. Elle a affronté le débat le plus violent de la 5e République française. La monstruosité de ses adversaires ne l'a pas ébranlée, du moins pas en apparence. En tout cas, pas suffisamment pour qu'elle abandonne. Grâce à elle, grâce à sa force, son courage, son abnégation, les 300 000 Françaises ayant recours à l'avortement chaque année ont pu le faire en toute légalité. La loi Veil sur la dépénalisation de l'IVG compte parmi les avancées de la société française. Simone Veil elle-même estimait que la loi Neuwirth de 1967, légalisant la pilule contraceptive, avait une portée historique plus importante. Mais pour toutes les femmes qui avortaient dans la détresse, il est indéniable que la loi Veil occupe une place de choix. Pour Simone Veil, ce coup d'éclat politique ne fut que l'une de ses nombreuses démarches en faveur d'une société plus juste, car sa carrière était loin d'être finie. 5 ans après la loi sur l'IVG, elle est élue présidente du Parlement européen. Elle fut la première femme à occuper ce poste et elle y restera pendant 2 ans et demi. Ainsi, Simone Veil devient citoyenne de l'Europe au niveau le plus élevé. Quel symbole puissant. En novembre 2008, c'est l'Académie française qui lui ouvre ses portes, faisant d'elle la 6e femme à entrer dans la prestigieuse institution. Elle rejoint ainsi les rangs des immortels et occupe le fauteuil numéro 13, qui fut celui de Jean Racine. En réponse au discours de réception de Madame Simone Veil, le romancier Jean d'Ormesson de l'Académie française lui adresse des mots bouleversants d'émotion et de vérité. De toutes les figures de notre époque, vous êtes l'une de celles que préfèrent les Français. Les seuls sentiments que vous pouvez inspirer, et à eux et à nous, sont l'admiration et l'affection. Je voudrais essayer de montrer pourquoi et comment vous incarnez avec plus d'éclat que personne les temps où nous avons vécu, où le mal s'est déchaîné comme peut-être jamais tout au long de l'histoire et où quelques-uns, comme vous, ont lutté contre lui avec détermination et courage et illustré les principes qui ne nous sont pas tout à fait étrangers, de liberté, d'égalité et de fraternité. Et puis plus loin, Jean d'Ormesson ouvre son cœur. Je vous regarde, madame. Vous me faites penser à ces grandes dames d'autrefois, dont la dignité et l'allure imposaient le respect. Et puis, je considère votre parcours et je vous vois comme une de ces figures de proue en avance sur l'histoire. Oui, il y a de l'énigme en vous. Une énigme claire et lumineuse jusqu'à la transparence. Elle inspire à ceux qui ont confiance en vous des sentiments qui les étonnent eux-mêmes. Cette admiration, vous la suscitez, bien sûr, vous-même. Mais dans votre cas, quelque chose d'autre s'y mêle, du respect, de l'affection, une sorte de fascination. Beaucoup, en France et au-delà, voudraient vous avoir, selon leur âge, pour confidente, pour amie, pour mère, peut-être pour femme de leur vie. Nous vous aimons, madame. Alors, lorsque les yeux perçants de Simone Veil se ferment pour la dernière fois, le 30 juin 2017, la France et l'Europe perdent une grande dame. Au crépuscule de ses 90 ans, Simone Veil s'en est allée. Mais immortelle, elle restera à jamais dans les cœurs des citoyennes françaises et européennes. Un an plus tard, le 1er juillet 2018, au son d'un solo de violoncelle de la suite numéro 5 de Jean-Sébastien Bach, Simone Veil entre au Panthéon français aux côtés de son époux Antoine. Elle est la cinquième femme à reposer au Panthéon. L'ultime hommage de la France à une dame qui inspira le respect de la classe politique jusque chez ses adversaires, à une héroïne qui marqua l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle et que beaucoup aurait voulu avoir pour confidente, pour amie, pour mère. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous raconter grâce à la plume de Clémentine Méraud.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.